C'est un podcast Vivre FM. Vivre, c'est épatant sur Vivre FM.
Durant 6 ans, le journaliste Thibaut Petit a mené une enquête sur les ESAT. Il en sort un livre, Handicap à vendre, extrêmement critique sur le système des ESAT, ces établissements qui permettent le travail de personnes handicapées qui ne pourraient pas intégrer le milieu du travail ordinaire. Alors, faut-il supprimer les ESAT, les usagers, ces travailleurs sont-ils maltraités? Thibaut Petit nous donne son avis.
Vous écoutez Vivre, c'est épatant
avec Carole Clémence.
Thibaut Petit, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que les usagers, donc c'est comme ça qu'on appelle les travailleurs des ESAT, est-ce qu'ils sont vraiment maltraités?
Alors, effectivement, usagers, c'est pas mon terme, hein, c'est le terme de l'administration française, c'est le terme de l'État. Est-ce qu'ils sont maltraités? Certains le sont, c'est ce que j'ai pu constater pendant 6 ans au cours de mon enquête. Pourquoi ils sont maltraités? Pour deux raisons simples. Pourquoi certains sont maltraités? Pour deux raisons simples. La première, c'est qu'on leur demande de plus en plus d'aller vite et de faire de mieux en mieux. Il y a des impératifs de productivité. Dans certains ESAT, il y a des impératifs de rentabilité. Vous devez répondre à des commandes, il y a des objectifs chiffrés. Donc certains travailleurs handicapés qui sont aux 35 heures, je le rappelle, vivent très mal cette pression qui peut être mise. Pourquoi ils le vivent mal? Parce qu'ils le vivent parce qu'au regard de leur statut, qui est justement un statut d'usager, et qu'ils ne disposent pas des droits, des protections issues du Code du travail, comme le salaire minimum, comme les droits syndicaux, comme la possibilité de saisir les prud'hommes, comme la possibilité de saisir l'inspection du travail, par exemple. Oui. C'est ces deux contradictions-là qui, eux, les mettent mal à l'aise, en fait, tout simplement.
Oui. Oui. On ne parle pas de mauvais traitements, d'humiliation, de choses comme ça. Là, c'est un système qui maltraite.
Alors, moi, je pense qu'effectivement, il y a un problème structurel au sein des ESAT. Je pense qu'il crée structurellement de l'abus, tout simplement. À partir du moment où vous demandez à des travailleurs handicapés qu'on a considérés comme pas assez capables pour travailler dans le milieu ordinaire, mais que vous leur demandez quasiment la même chose en structure médico-sociale, mais que vous ne leur offrez pas les droits inhérents à ceux des salariés, bah effectivement, ça pose des gros problèmes.
Oui, alors dans Handicap à vendre, votre livre aux éditions Les Arènes Reporters, effectivement, on a plusieurs cas hein, de personnes, d'usagers, de travailleurs en ESAT qui travaillent énormément, qui travaillent autant qu'on a l'impression que dans le milieu ordinaire, peut-être même plus, et qui sont épuisés et certains se plaignent. Mais est-ce que c'est la réalité des 1400 et quelques ESAT? Là, vous n'avez pas pu visiter tous les ESAT?
Non, alors je ne les ai pas tous visités, effectivement, c'est pas possible. J'en ai visité entre 15 et 20 à peu près en France, partout en France, dans toute la région, quasiment toute la région en tout cas. Et j'ai lu des rapports. J'ai lu l'ONU, le rapport de 2021 de l'ONU, qui préconise la fermeture des ESAT, qui parle de conflit d'intérêts. J'ai lu aussi le rapport de l'IGAS et de l'IGF, hein, donc l'Inspection Générale des Affaires Sociales et l'Inspection Générale des Finances, qui pointent des gros problèmes de dysfonctionnement au sein des ESAT. Et ce qui m'a intéressé en premier lieu, c'est le témoignage des travailleurs handicapés en ESAT. Je me suis rendu compte qu'on ne les entendait jamais, tout simplement. Il y a toujours des gens qui parlent pour eux, des représentants, des associations, des porte-parole. Et je me suis rendu compte qu'on ne les entendait jamais. Et ce qui m'a le plus intéressé, c'était de leur parler. Et effectivement, quand on va leur parler, on s'aperçoit qu'il y a un mal-être assez profond dans ces établissements-là, dont on ne parle jamais. Et il y a un mal-être parce que certains s'estiment rudoyés, ils s'estiment infantilisés. Vous savez, quand dans le chapitre 1 du livre, je parle de Sophie, une déficiente mentale, qui se lève à 6h30 le matin, qui doit prendre 2 bus pour aller dans son ESAT. Pourquoi elle doit prendre 2 bus? Parce que l'ESAT n'est pas. L'ESAT est souvent, pour ne pas dire toujours, à l'écart des villes. Quand on parle, par exemple, quand on m'a dit va à Dinan, rendez-vous à Dinan dans un ESAT, en fait, l'ESAT, il n'est pas à Dinan, il est à 4 km de Dinan. Quand on me dit viens à Salindre dans les Cévennes, dans le Gard, en fait, l'ESAT, il n'est pas à Salindre, qui est déjà une petite ville, il est à 3 km de Salindre. Donc, cette travailleuse handicapée, Sophie, elle se levait à 6h30, elle prenait un bus, elle en prenait un deuxième. Elle arrivait à l'ESAT, elle se changeait. Et elle mettait des petits trucs dans des boîtes toute la journée. C'est ce qu'elle disait de son travail. Qu'est-ce qu'elle faisait en réalité? Elle faisait du conditionnement de produits, donc des tâches très simples et très répétitives. Elle finissait vers 16h30, 17h. Elle rentrait chez elle, il était 18h30 à peu près. Et comment elle était payée? Elle était payée environ 700 euros net pour 35 heures de travail par semaine. Donc oui, oui, ça pose un gros problème
mais
en France aujourd'hui.
Mais elle avait un mal-être, elle vous l'exprimait. Elle et était alors, malheureuse de son travail.
Elle, si vous voulez, moi j'ai rencontré sa famille, j'ai rencontré elle, donc ses deux parents, son père et sa mère, et elle à Biarritz, donc voilà, dans le sud de la France. Et effectivement, ses parents m'expliquaient qu'elle rentrait souvent le soir, elle avait des problèmes de santé, des problèmes de dos en l'occurrence, oui. Elle souffrait, il arrivait qu'elle rentrait en pleurs à son travail, et c'est pas le seul exemple. Des exemples comme ça, j'en ai eu une centaine, j'ai décidé d'en choisir que quelques-uns. Chapitre 2, je parle de Robin et Sébastien, par exemple, deux grands gaillards qui sont complètement autonomes dans leur travail, ils ont le permis tous les deux. Il y en a un qui fabriquait des disjoncteurs, il les livrait le soir tout seul. Et eux, c'est pareil, on leur demandait toujours d'en faire plus. Ils étaient en mal-être profond. Donc c'est deux personnes qui, en l'occurrence, sont épileptiques, une épilepsie stabilisée, qui travaillent aux 35 heures. On leur demande de faire beaucoup et sans pouvoir se défendre quand ça se passe mal, évidemment. Et en l'occurrence, ce qui était curieux et à la fois assez étonnant dans cet établissement, c'est que moi, la première chose dont ils m'ont parlé quand je suis arrivé chez eux, donc dans les Cévennes, c'était le prix du café. C'était que le café était de 40 centimes pour les travailleurs handicapés et de 15 centimes pour les encadrants.
Oui.
Faudrait m'expliquer quand même.
Il y a une barrière entre encadrants et travailleurs ESAT usagers. On ne se mélange pas, c'est ça. Et puis, le café, il est moins cher pour les moniteurs, les encadrants.
Et en fait, c'est très intéressant parce que moi, au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Ils ont dû se tromper. Ça me paraissait trop gros pour être vrai. Et en fait, j'ai été dans cet établissement-là. Donc ça, c'est le chapitre 3 du livre. Donc je me rends dans cet établissement-là et je me rends compte que c'est vrai, en fait, qu'il y a un écart de prix entre le café des usagers, donc des travailleurs handicapés, et le café des encadrants. Et comment, la question qu'on doit se poser, c'est comment on le justifie, en fait.
C'est justifié comment ?
Et ben en fait, c'est assez simple. Alors, quand je suis allé dans l'établissement, le directeur m'a dit « Non, mais c'est pas normal, on va changer tout ça ». Et ce qui est vrai, ça a été changé depuis, je dois le dire, ça a été changé il y a quelques années. Donc le prix du café est quasiment le même. Enfin, il est le même aujourd'hui pour les deux types de travailleurs. Et comment on le justifie ? C'est ça qui est intéressant. Ben, on en revient à la question de tout à l'heure, c'est-à-dire que les travailleurs handicapés ne sont pas des salariés, ce sont des usagers. Quand vous êtes usager, vous êtes quoi ? Vous êtes l'usager d'un service public, vous êtes l'usager d'une maison de retraite, vous êtes l'usager de la cave, du pôle emploi, que sais-je encore. Ça veut dire que vous êtes considéré comme un bénéficiaire. Un usager, c'est un bénéficiaire, c'est un client. Et en l'occurrence, vous êtes le bénéficiaire d'un service, d'un établissement médico-social. Ça veut dire que vous n'êtes pas considéré comme quelqu'un qui produit de la richesse, comme quelqu'un qui travaille. Vous êtes considéré comme le client, le bénéficiaire d'un service médico-social. Et quand vous êtes le client, que vous êtes le visiteur d'un établissement, eh ben, vous payez plus cher votre café, tout simplement.
Et pourtant, ce sont de vrais travailleurs. On n'utilise pas ce mot travailleur dans l'administration, mais ils travaillent réellement.
Eh ben, c'est tout le nœud de l'enquête que j'ai menée pendant 6 ans. C'est que je me suis rendu compte qu'on les appelait des usagers. Donc ça, c'est le terme de l'administration, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, quand vous vous rendez dans ces établissements-là, vous vous rendez compte que ce ne sont pas du tout des bénéficiaires, que ce ne sont pas du tout des gens qui profitent d'un système. Ce sont des travailleurs qui créent de la richesse, qui produisent de la valeur ajoutée. Quand vous êtes autonome, par exemple en atelier espace vert, que vous allez chez le client tout seul le matin et que vous rentrez le soir et que personne ne vous a vu de la journée, vous avez taillé des haies ou tondu des pelouses.
Et vous ne rentrez pas dans les AT, c'est ça ? Vous ne revenez pas à les AT ?
Ah bah, ils viennent le matin, évidemment, ils prennent le camion, ils partent, ils reviennent.
Ils ramènent le camion et ils rentrent chez eux.
Plus ou moins accompagnés d'un moniteur. Il y a des équipes aujourd'hui qui sont complètement autonomes,
oui.
Que de travailleurs handicapés. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est comment on peut appeler ces gens-là des usagers ? C'est pas possible. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte, juste pour finir, qu'effectivement, ces gens-là ne sont pas des usagers, ces gens-là sont des travailleurs. Et d'ailleurs, quand vous allez dans un ESAT aujourd'hui, les directeurs d'établissement eux-mêmes le disent. Nous ne sommes plus des structures médico-sociales, ils vous le disent. Ils disent, nous sommes des entreprises, trois petits points, sociales. Et c'est un argument qui est assez logique. C'est-à-dire qu'ils vous disent, on produit quasiment comme dans le milieu ordinaire. Je vais vous citer trois exemples. En restauration, par exemple, pour avoir vu un peu comment ça se passait, je peux vous dire que les travailleurs handicapés avec les moniteurs, ils envoient du lourd. C'est-à-dire que ça va très vite. Quand ils doivent vous fournir 180 repas au sein du restaurant de l'établissement en un midi, il faut envoyer. Et donc, c'est le cas. En espace vert, vous avez des équipes qui sont complètement autonomes. En blanchisserie, j'en parle dans mon enquête, dans le livre. Dans le dernier chapitre, il y a un directeur qui se vante de tailler des croupières à de gros blanchisseurs du coin. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il prend des marchés aux blanchisseurs de la région. Donc c'est-à-dire que les ESAT sont en concurrence entre eux pour certains, mais ils sont aussi en concurrence avec des entreprises locales.
Oui.
Donc
oui.
Ça veut dire qu'on n'est plus du tout dans un statut d'usager. On ne peut pas dire ça, ce n'est pas possible.
Oui, effectivement, ce sont des travailleurs, il faudrait changer ce terme. On continue à en parler avec vous, Thibaut Petit, auteur d'Handicap à vendre, aux éditions Les Arènes, reporter dans 2 minutes.
Vous écoutez Vivre c'est épatant avec Carole Clémence.
On parle des ESAT avec le journaliste Thibaut Petit, auteur d'Handicap à vendre, un livre très critique, extrêmement critique sur le système des ESAT. On continue d'en parler. Alors, avant les ESAT, il y avait les CAT, les centres d'aide par le travail, si je ne me trompe pas, qui accueillaient à la base des personnes en situation de déficience intellectuelle. Donc c'était un travail beaucoup plus simple. Et puis il y a eu une évolution. En 2005, on a accueilli les personnes avec un handicap psychiques, qui sont souvent mieux formés, qui ont des diplômes et qui ont des capacités très très supérieures.
Oui, alors effectivement, les CAT, historiquement, ce sont des établissements qui sont surtout dans le conditionnement de produits et la sous-traitance industrielle. Donc c'est des activités qui sont plutôt adaptées à des déficients mentaux lourds. Et ça a évolué pour plusieurs raisons. La première, avant de parler de la reconnaissance du handicap psychique, c'est que ces ateliers-là sont partis à cause de la mondialisation, pour beaucoup, en Asie du Sud-Est.
C'était plus rentable du tout, même si c'était subventionné par l'État. C'était
exactement, exactement. Et c'est ce que disent d'ailleurs les directeurs d'établissement. Ils vous disent aujourd'hui, ces activités sont plus rentables. Alors elles permettent de donner un travail avec des personnes qui ont une déficience mentale lourde, mais elles ne sont plus rentables. Donc les établissements aujourd'hui sont une espèce de dilemme moral et économique, en réalité, entre comment on fait pour continuer à donner un travail à des personnes qui sont considérées comme non adaptées et en même temps faire vivre un établissement, tout simplement. Mais de facto, ces activités-là sont parties en Asie du Sud-Est à cause de la mondialisation. Et l'autre chose, c'est que ces activités-là ne sont pas rentables, tout simplement. Ça, les directeurs d'établissement le disent très bien. Et donc, les ESAT ont, elles ont dû, tout simplement, s'adapter, se moderniser, se structurer. Et donc, elles ont développé beaucoup d'autres activités qu'on a déjà un peu évoquées, donc espace vert,
blanchisserie,
restauration, menuiserie, communication numérique. Et pour faire tourner ces activités-là, il vous faut de la main-d'œuvre plus habile, tout simplement. Et donc, on se rend compte qu'il y a un effet un peu concomitant. À la fois, ces établissements-là ont besoin d'une main-d'œuvre plus habile techniquement, moins lourdement handicapée mentalement. Et à la fois, si vous voulez, en 2005, la France a reconnu le handicap psychique. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a eu des personnes qui étaient atteintes d'une maladie psychique. Donc pour donner des noms, ça peut être schizophrénie, trouble bipolaire, personnes atteintes de TOC. Mais il y a plein d'autres maladies donc, sur lesquelles on ne met pas encore de nom, évidemment.
Oui.
Et ce sont des personnes qui sont tombées malades, par exemple, à l'âge adulte, et qui n'ont pas de déficience mentale, et qui ont surtout connu un cursus quasiment ordinaire jusqu'à tomber malade, donc jusqu'à l'âge adulte quasiment. Et donc cette main-d'œuvre-là, ces personnes-là ont massivement été orientées en ESAT. Et donc, ça a permis aussi aux ESAT de modifier leurs activités et de les structurer un peu plus. Et aujourd'hui, on se rend compte, et ça, c'est très intéressant, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des rapports de l'IGAS, de l'IGF et du Sénat aussi, on se rend compte que non seulement l'ESAT ne parvient pas à intégrer des travailleurs de milieu ordinaire, hein, entre 0,5% et 2% des travailleurs qui intègrent un ESAT accèdent un jour au milieu ordinaire, alors que c'était leur mission de base,
oui.
D'être en plein. Non seulement ça ne fonctionne pas, mais on se rend compte que de plus en plus de personnes qui intègrent des ESAT aujourd'hui ont connu le milieu ordinaire avant. Pourquoi ? Il y a cette raison-là que je viens de vous donner, qui est la reconnaissance du handicap psychique, mais aussi, on se rend compte que le milieu ordinaire, il crée et il réactive du handicap chez certaines personnes, tellement il peut être violent, tellement il peut être stressant. Et c'est-à-dire qu'on a des personnes aujourd'hui qui font des burn-out, qui font des dépressions, parce qu'elles n'ont pas supporté la pression dans le milieu ordinaire, et ces personnes-là, qui sont éloignées de l'emploi, qui sont précaires, eh ben, on les oriente en ESAT. C'est ce que me dit très bien une médecin coordinatrice dans une MDPH, pas très loin de Paris d'ailleurs.
Oui, oui. Et alors, les personnes déficientes intellectuelles qui étaient à la base de ces établissements, elles sont où aujourd'hui ?
C'est une très bonne question. j'ai pas forcément la réponse à vous donner de manière générale. Si vous voulez, moi, je peux vous parler de sur ce quoi j'ai enquêté, sur ce que j'ai vu. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, vous allez dans un ESAT. Les directeurs d'établissement vous disent on n'a quasiment plus de personnes trisomiques 21, par exemple. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Alors pourquoi ? Il y a eu le progrès de la médecine, évidemment. Et puis, il y a eu aussi le fait que peut-être ces personnes-là ont été orientées vers des structures qui soient plus occupationnelles, comme les foyers. D'ailleurs, je raconte dans un des passages que Philippe, dont le prénom a été évidemment modifié, Philippe qui a fait toute sa carrière en CAT puis en ESAT, il a une déficience mentale, il se déplace pas très bien, il était assigné à des tâches assez simples, et un jour, la direction, les encadrants de l'établissement se réunissent et ils estiment que Philippe n'est plus assez productif et que pour son bien, il faut le mettre en foyer occupationnel parce qu'il n'est plus capable de tenir les cadences demandées en ESAT.
Oui.
Et Philippe ne veut pas. Philippe fait une expérience dans ce foyer-là. Donc, il fait des activités qui n'ont rien de professionnel. Hein. C'est des activités de loisirs. Il peint. Il y a un ergothérapeute qui lui apprend comment se doucher sans risquer de se blesser, sans tomber. Il fait du dessin, il fait de la sculpture, bref. Et lui, il ne veut pas, il veut rester en ESAT, parce que l'ESAT lui plaît, en fait, il faut dire les choses.
Et c'est un travail, c'est un vrai travail.
Exactement, c'est un travail.
C'est valorisant, c'est important d'avoir sa place dans la société.
Exactement, alors ça, c'est un autre point intéressant, effectivement. Et donc, l'ESAT lui plaît, il veut rester en ESAT, sauf que l'ESAT estime qu'il n'est plus capable de suivre. Et donc, les encadrants se réunissent sans lui un jour, et il valide sa sortie, tout simplement. Et donc, moi, ça m'a paru assez bizarre. Donc, je l'appelle. Et je l'appelle et en fait, il n'était pas au courant qu'il allait sortir.
Oui, on ne l'avait pas prévenu.
On ne l'avait pas prévenu qu'il allait sortir. Et donc, je me demande comment c'est possible. Et donc, je me tourne vers une MDPH qui était la plus proche de chez moi, qui est dans les Hauts-de-Seine. Et le médecin me dit que ça arrive parfois que la MDPH soit là juste pour entériner la sortie de certains travailleurs handicapés. Alors que normalement, la sortie, comme l'orientation, se fait sur décision de la MDPH, après des passages en commission, après que des gens, des professionnels se soient réunis pour décider que la personne, en accord avec la personne concernée évidemment, soit capable ou soit d'accord pour entrer et quitter l'établissement. Et on se rend compte qu'en fait, c'est pas toujours le cas tout simplement.
Oui, oui, et on se rend compte toujours cette logique de rentabilité, que ces établissements médico-sociaux aujourd'hui sont des entreprises. Enfin, il y a des managers derrière. Certains directeurs d'EHPAD sont issus du monde managérial et se considèrent comme de vrais directeurs d'entreprise.
Alors ça, c'est effectivement un truc que j'ai remarqué pendant mes 6 ans d'enquête, c'est-à-dire qu'on se rend compte que à l'époque, en tout cas historiquement, qui est-ce qui dirige des ESAT ? C'est des gens qui sont issus du médico-social,
oui.
Des personnes qui ont fait carrière là-dedans, des moniteurs qui sont devenus éducateurs, chargés de production, encadrants, qui ont petit à petit gravi les échelons, qui sont devenus directeurs d'établissement. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont une école de commerce sur leur CV. Des personnes qui
là,
ont...
Là, vous parlez des nouveaux, parce qu'il y a encore des directeurs qui sont issus du médico-social.
Tout à fait, il y en a encore. Mais évidemment, dans les nouveaux directeurs d'établissement, la plupart sont des personnes qui ont une expérience dans la grande distribution. C'est un truc que j'ai remarqué. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin, parce que les associations gestionnaires ont besoin de faire venir des gestionnaires. C'est leur terme, c'est pas oui. Le mien. Hein. Moi, j'écris le mot, mais c'est pas le mien. On a besoin de faire venir des gestionnaires. Pourquoi ? Parce que les ESAT, aujourd'hui, se sont tellement rapprochés du milieu ordinaire en termes de production, de qualité aussi, hein, il faut le dire, de qualité, hein, pas que de productivité, aussi de qualité, qu'il faut manager, qu'il faut rationaliser, qu'il faut gérer, tout simplement, des effectifs, mais aussi un budget qui peut être contraint parfois. Et que pour tout ça, bah, il faut faire venir des gens qui ont une habitude du milieu de l'entreprise, tout simplement. Et d'ailleurs, ils le disent, nous ne sommes plus des... Je l'ai dit tout à l'heure, mais nous ne sommes plus des structures médico-sociales, nous sommes des entreprises sociales.
Oui, c'est ce qui ressort de vos entretiens avec ces directeurs. Vous en avez une dizaine, je crois, huit. Vous en avez interviewé huit dans ce livre, « Handicap à vendre ». Et ce qui ressort aussi, c'est ce qu'on a déjà dit, mais on va insister, c'est qu'ils ont besoin, dans cette logique de rentabilité, les ESAT dont vous parlez dans le livre, d'avoir des employés, des usagers, des travailleurs qui sont qui sont rapides, qui sont efficaces. Justement, ceux qui seraient le plus à même d'être en milieu ordinaire.
Oui, alors ça, c'est un autre truc qu'on remarque, effectivement. Et ça, c'est encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport du Sénat qui explique très clairement que les entreprises, les ESAT, pardon pour ce lapsus, mais c'est, voilà, c'est révélateur, que les ESAT se sont tellement rapprochés du milieu ordinaire, tellement rapprochés des entreprises, que les activités sont quasiment les mêmes, qu'elles sont en concurrence avec les entreprises du coin, et que les activités qui sont faites nécessitent beaucoup d'habiletés techniques, de compétences aussi, d'habiletés intellectuelles et mentales, de productivité, et que parfois, il arrive que les meilleurs éléments, tout simplement, que les meilleurs éléments soient gardés par l'établissement pour faire tourner la boutique.
Oui.
Et c'est un truc qu'on lit dans le rapport du Sénat, mais aussi dans le rapport de l'IGAS et de l'IGF, et c'est aussi une chose que m'ont dite des directeurs d'établissement, pas que des directeurs, d'ailleurs des encadrants, qui me disent, mais nous, on nous demande de faire tant de commandes à tel jour, désolé, mais on a besoin de garder les meilleurs pour atteindre nos objectifs.
Sinon, oui, puisqu'il faut être réactif.
Sinon, on n'y arrivera pas, et c'est logique. Enfin, si vous voulez... Demain, un ESAT qui n'arrive pas à répondre au marché, aux commandes des clients, bah, le client, il va se détourner de l'ESAT, il va aller voir ailleurs, tout simplement.
Oui. Thibaut Petit, alors, vous abordez beaucoup la rémunération de ces travailleurs d'ESAT. En fait, c'est une rémunération, c'est pas un vrai salaire, ils sont pas salariés, ils ont pas ce statut de salarié. Et donc, finalement, ils sont payés plus par l'État que par l'ESAT.
Oui, alors ça fait partie d'une de leurs revendications. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes en ESAT, vous touchez environ, en moyenne, 750 euros net pour 35 heures de travail.
Oui.
Le rapport de l'IGAS et de l'IGF parle de 800 euros net. C'est un chiffre que je n'ai jamais trouvé pour des raisons simples. C'est qu'il y a toujours des jours de carence pour maladie. Il y a toujours des absences. Il y a toujours des repas à la cantine décomptés. Donc moi, j'arrive plutôt à 750 euros net. On n'est pas très loin, à 50 euros près. Bref.
Ça, c'est la part que verse l'ESAT. Et puis l'État va verser...
Alors, c'est même pas la part de l'ESAT. C'est-à-dire que dans ces 750 euros net, vous avez deux lignes sur la fiche de paye d'un travailleur handicapé en ESAT. La première, c'est l'aide au poste. L'aide au poste, c'est quoi ? C'est environ 50% du SMIC. C'est versé par l'État. Et l'autre part de rémunération, c'est ce qu'on appelle le salaire atelier dans certains ESAT, c'est la part de rémunération de l'ESAT.
D'accord.
Envers son travailleur handicapé. Et ça, en moyenne, en France, c'est 10% du SMIC. Donc, ça veut dire qu'un travailleur handicapé, quand je parle des 750 euros net par mois, c'est l'addition de ces deux lignes-là. Ça fait à peu près un peu plus que la moitié d'un SMIC en réalité, ça fait à peu près 60% d'un SMIC. Donc ça veut dire que, en gros, 85% de cette rémunération-là, déjà de base, elle est du fait de l'État. D'ailleurs, on se rend compte que depuis 10 ans, la part de rémunération de l'ESAT, elle a diminué d'un point, soit 10%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'ESAT est bien dans une logique de coûts et de charges. Et évidemment, une fois qu'on a dit ça, on peut pas dire que le travailleur handicapé vit juste avec 750 euros.
Oui.
C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe en réalité ? Il vit de prestations sociales. Qu'est-ce que c'est que les prestations sociales ? On va parler surtout de l'allocation adulte handicapé, qui est l'AAH. L'AAH, elle est calculée sur beaucoup de critères, dont la capacité, le taux d'incapacité du travailleur handicapé, dont le statut social, donc c'est la fameuse question de la déconjugalisation. Et elle est aussi calculée sur la part de rémunération de l'ESAT. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'en fait, en réalité, on se rend compte que quand l'ESAT augmente sa part de rémunération, l'AAH diminue.
Oui.
Quand l'ESAT diminue sa part de rémunération, l'AAH augmente.
Oui.
Et donc l'ESAT n'a strictement aucun intérêt d'augmenter sa part de rémunération. Et d'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, mais on se rend compte que du coup, la part de rémunération de l'ESAT a diminué depuis 10 ans, et sûrement depuis plus que ça, mais moi j'ai que des données depuis 10 ans. Sa part de rémunération a diminué en réalité de 10%. Et ça pose juste, ça pose ce qu'on pourrait se dire, c'est pas grave puisque le travailleur handicapé, il est complété par les aides de l'État, etc., etc. Sauf que ça pose énormément de problèmes. Le premier, c'est la considération du travail. Quand vous êtes payé 10% du SMIC par votre employeur, vous vous sentez déconsidéré, vous vous sentez pas utile. Et ça, ils le disent très bien tous ceux que j'ai rencontrés.
Il y a pas de la qualité du travail n'est pas prise en compte. Plus on travaille, on ne sera pas plus payé.
Exactement.
Donc il y a pas de.
Donc il y a ça. Il y a la considération du travail. Le deuxième problème que ça pose, c'est le calcul de la retraite. C'est-à-dire que la AAH ne rentre pas en compte dans le calcul de la retraite. La retraite, elle est calculée sur les 750 euros nets dont je viens de parler.
Oui.
Donc c'est assez terrible. L'autre problème, c'est que vous n'avez pas possibilité de très peu de, en tout cas beaucoup de difficultés à obtenir des crédits auprès des banques. Vous allez voir votre banque, votre banquier, vous lui dites je touche tant de mon employeur et j'ai l'AAH. L'AAH, le banquier, il s'en fout. Très clairement, pour avoir discuté avec beaucoup de travailleurs handicapés, il y en a très peu qui arrivent à obtenir des crédits parce que ce n'est pas possible quand vous touchez l'AAH.
Et pourtant, l'AAH, elle est à vie pour un handicap lourd.
Oui, elle est à vie, mais sauf que ce n'est pas considéré comme un revenu tangible et fiable de la part des banquiers. Et ils préfèrent des revenus du travail avec des personnes qui soient fiables, qui ont aussi une durée de vie plus longue, qui soient solvables si possible, avec des garants. Et effectivement, ce qu'ils disent, c'est que, un, considération du travail, elle n'est pas reconnue. Deux, le calcul de retraite, c'est un énorme problème. Donc, ils vivent du minimum vieillesse la plupart du temps. Et trois, obtenir des crédits, c'est quasiment impossible. Et obtenir des crédits, ce n'est pas juste de la consommation. C'est aussi voir plus loin, voir 10, 15 ans dans l'avenir. C'est construire un futur.
Oui, ouais. On va continuer à en parler, à parler de ce livre Handicap à vendre, Thibaut Petit, aux éditions Les Arènes Reporters, et de ce travail des personnes en situation de handicap qui sont dans les ESAT.
Vous écoutez Vivre c'est épatant avec Carole Clémence.
On parle du monde des ESAT, de ces travailleurs, ces usagers, comme l'appelle l'administration, comme les appelle l'administration. Handicap à vendre, c'est le livre de Thibaut Petit aux éditions Les Arènes Reporters qui parle de ce sujet. Il a enquêté pendant 6 ans sur ces ESAT. Il en a visité plusieurs. Il a rencontré de nombreux travailleurs d'ESAT en situation de handicap. Alors, on parlait du salaire qui est très bas parce que les directeurs d'ESAT savent qu'à côté, l'État peut prendre en charge, peut donner des allocations. À combien peut se monter ce que va toucher en un mois une personne si on englobe tout ?
Ouais, alors moi, c'est un truc que j'ai eu beaucoup de mal à vérifier parce que bon, le salaire en ESAT, il est assez stable. On parle de 750 euros net.
Oui.
Et à côté, il y a évidemment les aides de l'État, donc l'AAH, l'allocation adulte handicapé dont je parlais tout à l'heure. En plus, il y a la prime d'activité pour certains, plus les aides au logement, donc les APL notamment. Pourquoi c'est compliqué à vérifier ? Parce que l'AAH, qui est l'un des plus gros montants dans ses ressources, dépend énormément, évidemment, du taux d'incapacité, dépend du salaire, enfin de la rémunération qu'on vous verse en ESAT. Ça dépend de si vous êtes célibataire ou non, ça dépend de si vous vivez chez vos parents ou non. Donc moi, j'ai eu beaucoup de mal à vérifier tout ça, mais cela dit, le rapport de l'inspection générale des affaires sociales et le rapport conjoint de l'inspection générale des finances évoquent le chiffre de 1400 euros en ressources totales pour un travailleur handicapé en ESAT.
Oui.
Donc ça veut dire rémunération ESAT, ça veut dire APL, ça veut dire prime d'activité, ça veut dire AAH. 1400 euros net. Donc ça veut dire en gros 90-95% d'argent public et de prestations sociales, et d'aide sociale en tout cas, pour un travailleur en ESAT qui, je rappelle, fait 35 heures de travail. C'est un chiffre que j'ai pas pu vérifier moi-même pour la raison que j'ai donnée avant, mais qu'il y a, bon, il y a aucune raison de contester. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que ce ne sont pas des revenus du travail et que c'est ce qui pose problème aux travailleurs handicapés aujourd'hui en ESAT.
Oui, oui. Mais alors pourtant, dans ces ESAT, il y a souvent une liste d'attente. Des gens veulent travailler, veulent travailler, même s'ils pourraient avoir bénéficié d'allocations en restant chez eux, enfermés.
Oui, absolument. Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant. Alors il y a deux choses, il y a deux trucs dans votre question. C'est-à-dire que moi, par définition, tous les travailleurs handicapés que j'ai entendus, ils travaillent en ESAT. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, mais puisque vous ne vous y plaisez pas, allez-vous-en, enfin quittez cet établissement. Tout ce qu'ils disent, c'est que malgré tout, effectivement, l'ESAT leur permet une certaine sociabilisation, leur permet de travailler, leur permet de sortir de chez eux. Et même pour les familles, c'est-à-dire que même pour les familles, ça leur permet de se décharger et de se dire notre enfant, une institution française s'en occupe.
Oui.
Ça, c'est quelque chose de très important. Cela dit, j'ai une toute petite critique à faire là-dessus, c'est-à-dire que en France, il faut savoir que plus on crée des ESAT, plus on a besoin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la création d'ESAT permet aux entreprises de s'exonérer en partie de leur obligation de travailleurs handicapés. Comme vous le savez, une entreprise de plus de 20 salariés, elle a 6% d'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. En réalité, les ESAT, c'est de l'emploi indirect, mais les ESAT permettent à ces entreprises de s'exonérer en partie de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Et donc, plus on crée des ESAT et plus on permet aussi aux entreprises de s'exonérer de leur obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Et effectivement, on se rend compte que ces travailleurs-là, puisqu'ils n'ont pas accès au milieu ordinaire de travail, j'en cite plusieurs exemples dans le livre, Sébastien, Robin, Nathanaël, Jérôme, Émilien, toutes ces personnes-là, ont cherché un travail dans le milieu ordinaire, ont voulu travailler dans le milieu ordinaire, on leur a dit « Écoute, tu n'es pas adapté au milieu ordinaire, on va te mettre dans un ESAT. » Je précise une chose, c'est pas elles qui décident d'aller dans un ESAT. C'est-à-dire qu'elles font un dossier auprès de la MDPH et on les oriente en ESAT parce qu'elles sont considérées comme non adaptées.
Donc elles n'ont pas le choix.
Elles ont le choix d'accepter ou non, bien sûr que non. On ne leur dit pas « Allez-y, vous n'avez pas le choix. » Mais on leur dit, ce qu'on leur dit, c'est « Ce serait mieux pour vous que vous alliez dans un ESAT, sinon vous n'allez pas trouver de travail dans le milieu ordinaire.
Oui. »
Et ça pose un gros problème. Pourquoi la société n'est pas capable de faire une place à des gens comme ça ? Moi, ça me pose question, personnellement.
Oui. Après, il y a les entreprises adaptées. C'est peut-être accessible à ces personnes qui trouvent pas leur compte en ESAT.
Oui, absolument. Alors, les entreprises adaptées, ce qui est intéressant avec ça, c'est que ce sont des... les personnes qui travaillent ont le statut de salarié. Et la différence, et encore une fois, c'est pas moi qui fais cette différence, c'est l'administration française. Pourquoi vous êtes orienté en ESAT ? C'est parce que vous avez une capacité de travail qui est inférieure à un tiers de celle d'une personne valide. Ça, c'est les textes officiels. En entreprise adaptée, vous êtes censé avoir une capacité de travail supérieure à un tiers de celle d'une personne valide. C'est comme ça qu'on fait les orientations en ESAT. Sauf que on se rend compte que c'est bidon, c'est pipeau. Les médecins et les gens que j'ai rencontrés au sein des MDPH me le disent, mais c'est impossible d'évaluer ça, tout simplement. Et les directeurs d'établissement eux-mêmes disent que c'est pas vrai. C'est-à-dire que ils me disent, mais regardez comment on travaille. Est-ce que vous pensez vraiment que cette personne-là, elle a une capacité de travail inférieure à un tiers de celle d'une personne valide ? Bien sûr que non. Nous, en restauration, nous, en espace vert, nous, en blanchisserie, on a une productivité qui est quasiment la même que dans le milieu ordinaire.
Oui, oui. Alors, pour vous, c'est un scandale, ce système des ESAT, c'est ça ? C'est ce qui en ressort de ce livre ?
Alors, il y a trois mots que j'emploie pas dans le livre. C'est un, le mot scandale,
oui,
qui est galvaudé. 2, le mot esclavagisme qui fait référence à un passé qui est évidemment pas celui des ESAT aujourd'hui. Et 3, le mot exploitation.
Parce que là vous parlez de la lettre de l'Handicat, l'Association nationale des directeurs et cadres des ESAT, qui s'insurge contre votre livre, qu'il considère comme un pamphlet à charge et un brûlot. Voilà.
Oui, tout à fait. Sauf que moi, je répète que j'emploie ces trois mots-là, je les emploie pas.
Oui.
Le mot exploitation, j'emploie pas parce que c'est un mot que j'estime galvaudé et qui peut vous emmener devant les tribunaux, tout simplement. Et surtout, moi, ce que j'ai fait pendant 6 ans, et je crois que l'handicap l'oublie complètement, j'ai fait une enquête, mais j'ai fait un reportage surtout. C'est un reportage au long cours qui est à ras du sol. Je fais parler des gens, je fais parler des travailleurs handicapés, je fais parler des directeurs d'établissement, je restitue les dialogues tels qu'ils ont été entendus,
oui,
tels qu'ils ont été réalisés. Je suis très peu dans le commentaire, il y a vraiment très peu de passages éditorialisés. Ce qui est désolant dans la réaction d'Handicat, c'est que, déjà ils disent que j'ai visité 3 établissements, ce qui est complètement faux, j'en ai visité entre 15 et 20. Et ce qui est dommage,
Sur 1450.
Et ce qui est dommage, c'est qu'ils oublient complètement tous les témoignages que j'ai recueillis de travailleurs handicapés. C'est-à-dire,
oui,
que si leur leitmotiv, c'est de faire travailler ces gens-là, de vouloir leur bien-être, il faut au moins qu'ils acceptent qu'il y ait des personnes qui sont en souffrance.
Oui.
Et qu'il y a une contradiction énorme, mais vraiment énorme, entre l'argument de dire on fait comme dans le milieu ordinaire, on est aussi bon, on est aussi fort, et le statut d'usager qui est le leur, qui leur empêche d'avoir un salaire minimum, qui leur empêche d'avoir des droits syndicaux, qui leur empêche de saisir les prud'hommes, qui les empêche de saisir l'inspection du travail. Et d'ailleurs, y a même des gestionnaires aujourd'hui qui disent que d'ailleurs ce n'est plus possible de continuer à les embaucher comme des usagers.
Oui, oui. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Vous n'avez peut-être pas d'avis, mais vous avez rencontré beaucoup de gens qui, eux, ont ton avis.
Oui, alors personnellement, effectivement, j'ai pas d'avis. Alors, mon avis, c'est que c'est plus possible de continuer comme ça. On ne peut pas continuer à embaucher des personnes en leur demandant de faire plus sous un statut d'usager. Ces gens-là ne sont pas des bénéficiaires, il faut arrêter avec ça, évidemment. C'est évident quand on,
oui,
visite ces établissements-là. Et dans les solutions, y en a 2 que j'ai entendues, en tout cas. La première, ce serait de dire qu'il faut que le code du travail s'applique, tout simplement. C'est d'ailleurs la position...
Qu'ils deviennent des salariés...
Absolument, voilà. Des salariés à part entière.
Et payés au SMIC, au moins.
C'est la position du président d'Handicat, Didier Rambaud, que j'ai rencontré dans le livre, qui dit que... Lui, dit qu'on en arrive à des niveaux de compétences tellement élevés dans les ESAT qu'ils dépassent parfois ceux des moniteurs.
Oui.
Je ne sais pas si on se rend compte de ce qu'on est en train de dire, hein, mais c'est quand même assez fou. Et donc lui, il est pour que le code du travail s'applique, que les usagers deviennent des salariés, qu'ils aient un salaire minimum, qu'ils aient des droits syndicaux, qu'ils puissent se faire représenter comme des salariés au sein de l'entreprise. Ce qui me paraîtrait assez logique. Il y en a d'autres qui préconisent la fermeture de ces établissements-là.
Oui, il y a vraiment des gens qui pensent que ce serait mieux. Mais alors, que deviendraient les gens qui travaillent ?
Alors, juste, je vais finir, juste étayer ce que je dis. Pourquoi ils disent ça ? C'est parce qu'ils considèrent que ce ne sont pas des lieux d'inclusion,
oui,
mais des lieux d'exclusion et de ségrégation.
D'accord.
Et c'est un argument qui est entendable parce que l'ONU, en septembre 2021, a sorti un rapport qui dit exactement la même chose. Elle considère qu'en ESAT, on n'inclut pas les personnes, on les exclut. On les exclut parce qu'on les considère qu'elles ne sont pas adaptées au milieu ordinaire de travail, et donc on crée des établissements. Et dans ces établissements-là, en réalité, qu'est-ce que c'est ? C'est on met des personnes qui ont un seul point commun, c'est une invalidité, qu'elle soit psychique, sensorielle, physique, mentale. Sauf que ces gens-là n'ont rien à voir ensemble. Si vous voulez, c'est des individus, le handicap n'est pas une identité. L'expression « les handicapés », pour moi, ça ne veut rien dire. Donc, évidemment, c'est questionnable. Et donc, ce n'est pas qu'un fantasme de militants, la fermeture des ESAT. C'est l'ONU qui le dit en septembre 2021, parce qu'elle considère que ce sont des lieux d'exclusion.
Oui. Et que deviendraient les travailleurs des ESAT, ces usagers, si ces ESAT fermaient ? Est-ce qu'ils ne se retrouveraient pas chez eux à ne rien faire ?
Eh ben, c'est tout le problème, parce que en créant des ESAT, on a validé le fait que ces gens-là n'avaient pas la place dans le milieu ordinaire, tout simplement. Et en les structurant, on continue à alimenter les ESAT, on continue à dire aux entreprises, vous n'avez pas besoin d'employés de travailleurs handicapés puisqu'il y a les ESAT. Et on en arrive effectivement à un point où aujourd'hui, enfin plutôt demain, si vous fermez les ESAT, ça va poser un gros problème.
Oui.
Il y a 120 000 personnes qui vont se retrouver sans occupation, très clairement, c'est sûr. D'ailleurs, le rapport de l'IGAS et de l'IGF le dit, et c'est l'un des arguments d'Handicat. Et ils ont raison de dire que, d'une certaine manière, les ESAT aujourd'hui sont aussi des boucliers sociaux pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Mais moi, je dis pourquoi elles sont éloignées de l'emploi. C'est-à-dire que le milieu ordinaire de travail est tellement normé, il est tellement dur, il peut être tellement stressant, il est incapable d'accepter les différences au point qu'on a dû créer des institutions pour permettre à des personnes d'obtenir un emploi. Et effectivement, mais c'est tout le problème de ces établissements-là, c'est-à-dire que les ouvriers handicapés eux-mêmes le disent, on n'aime pas ça, mais on continue d'y aller. Voilà.
Oui. Alors, sur toutes les personnes que vous avez pu rencontrer, tous les travailleurs en situation de handicap dans ces ESAT, la majorité sont mécontentes, ne sont pas heureux de leur sort ?
Alors, moi, j'ai rencontré que des travailleurs en ESAT qui étaient en mal-être, qui étaient mécontents de ce qu'ils faisaient en ESAT.
C'est fou, ça ?
Non, c'est pas fou. Il y a une raison simple, c'est que moi, je fais pas une dissertation de Sciences Po, je suis pas là pour faire thèse, antithèse, synthèse,
oui.
Je suis un journaliste. Mon rôle premier, c'était d'aller au-delà des discours aseptisés qu'on entend habituellement sur les ESAT, de dire, aujourd'hui, vous ouvrez la presse régionale, l'ESAT, il inclut, il accompagne, il aide, il insère. Moi, mon but, c'était d'aller au-delà de ça. C'est-à-dire que depuis 50 ans, on n'entend que ça sur les ESAT. Moi, mon objectif, c'était d'expliquer qu'est-ce qui se passait au-delà de ça. C'était de donner la parole aux travailleurs handicapés. Aujourd'hui, les travailleurs handicapés en ESAT, vous les entendez jamais. Il y a des gens qui captent leurs paroles. Il y a des associations, il y a des gestionnaires, il y a des représentants, il y a des porte-parole. Mais on ne les entend jamais. Dans les médias, on ne les entend jamais. Et ce que j'ai fait, la première chose que j'ai faite, c'était aller sur des forums en ligne. Et je me suis rendu compte que leur mal-être s'exprimait ici. Leur mal-être ne s'exprimait pas dans les médias, il s'exprimait sur des forums en ligne. Et un jour, j'ai écrit un message. J'ai dit que j'étais journaliste, que je cherchais à obtenir des témoignages. Et j'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages. Donc, des gens qui étaient mécontents.
Oui.
Et donc, évidemment, quand vous êtes journaliste et que depuis 50 ans, on vous vante le mérite des ESAT, eh ben, vous cherchez à savoir la face cachée de ces établissements-là,
oui,
tout simplement.
Et c'est ce que vous avez fait durant 6 ans. Et Handicap à vendre, c'est le produit de cette recherche aux éditions Les Arènes, reporter Thibaut Petit. Merci d'être intervenu sur notre antenne. Je vous souhaite une très bonne journée en notre compagnie.
C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.